Hey, bonjour tout le monde. Hey, c'était bon la louange ce matin? Oui, on donne une main d'appréciation pour tout ce beau travail-là. Eh bien, on termine ce matin notre série sur le Cantique des Cantiques. Et puis, nous sommes en train de regarder cette histoire d'amour. C'est toute une idylle, l'histoire de Cantique des Cantiques. On a vu plusieurs choses. D'ailleurs, dans le chapitre 6 de Cantique des Cantiques, ça dit il y a des filles qui regardent cette femme. Cette épouse, elle dit comment elle est heureuse. Et certainement, le mariage apporte son lot de bonheur. On est bien content pour ces beaux moments-là. Et en même temps, ça apporte quand même certains défis. Et ce matin, on veut regarder justement quelques questions qui vont nous aider comme couple, pour nous aider à grandir comme vie de couple. Et on a un beau panel avec nous. On a justement des gens qui travaillent avec les couples, justement, qui les accompagnent pour les aider. Et vous avez donc Éric et Nathalie. Et vous avez des gens qu'on connaît bien. Vous avez aussi Sylvain et Lynn, qui travaillent avec Cœur à cœur. Et puis, vous avez Étienne et Marie-Ève, qui travaillent avec le Sentier du cœur. Alors, on est bien contents de les avoir. On les accueille hein, chaleureusement. On va commencer avec Éric et Nathalie. Une des choses, c'est une des choses bien importantes dans la vie de couple, c'est la communication. Que parlez-nous de ça un petit peu, Éric et Nathalie.
Oui, c'est ça. Mais je voulais dire tantôt, avec les problèmes de micro, on a du plaisir à l'église, on a un microphone. Alors, la communication qui favorise le respect puis l'ouverture, bien, premièrement, c'est important de s'inspirer de la parole de Dieu. Et dans le livre des Proverbes et dans le livre de Job, on a beaucoup de clés pour la communication, pour une saine communication. Puis, on va voir 4 points qu'on retrouve dans les passages de ces livres-là.
Donc, le premier point, c'est être à l'écoute du message que notre conjoint veut communiquer. Le deuxième point, c'est laisser la personne aller au bout de son idée. Le troisième point, c'est de comprendre le besoin ou l'émotion de l'autre. Et le quatrième point, c'est éviter de se justifier ou chercher à avoir raison.
Puis, si on va dans les Proverbes, au tout début, l'introduction des Proverbes, le chapitre 1, les versets 2 à 6, on voit qu'il y a 3 éléments fondamentaux pour toute relation et toute communication. D'abord, révérer Dieu, c'est de là que commence la sagesse. Instruire, se nourrir du conseil et de la sagesse de Dieu. Puis, écouter et observer ce que Dieu est en train de faire, puis ce que ça développe dans nos vies, ça développe justement une écoute, une attention. Ça nous apprend à observer. Puis quand il y a un de ces 3 éléments qui sont défaillants ou moins forts dans notre vie, c'est là qu'il risque d'avoir des tensions ou des conflits de communication. Et si on parle d'être à l'écoute du message que l'autre veut communiquer, il y a ce que la personne dit puis ce que la personne veut dire.
Bon, j'ai un exemple ici. Alors, l'épouse dit à son mari, « On ne sort jamais au restaurant. » Donc, l'époux lui répond, « Tu ne te souviens pas qu'on est allé ensemble l'autre fois dans un resto dans le vieux hall? » Donc, le mari, lui, accroche sur le mot « jamais ». Ce qu'elle veut dire réellement, ce qu'elle a besoin en ce moment, c'est de sortir de la routine.
Mais moi, ça m'arrive jamais, hein, ça. Voyez-vous, Proverbe 19:2 dit « Le manque de science n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché ». Donc, de parler trop vite avant d'avoir tout compris ce qui se passe. Ou Proverbe 10:19 dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Puis Patrick Huard l'avait déjà dit dans un de ses clips là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, messieurs, c'est que nous, on pense souvent que le message est dans le fil. Mais quand nos épouses nous parlent, il faut comprendre que le message est au bout du fil. Il faut attendre à la fin. Parce que les femmes nous donnent toujours la conclusion à la fin, puis c'est là qu'est le jackpot, c'est là qu'est le gros morceau. Dans Proverbe 18:13, c'est dit que celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Donc, c'est important de chercher à écouter, puis il vaut mieux poser des questions que d'arriver à une conclusion, puis de chercher à se défendre. C'est pour ça que c'est important de comprendre l'émotion de l'autre dans la communication. Puis un, je pense, des passages les plus puissants à cet égard-là, c'est dans le livre de Job au chapitre 6, à partir du verset 21, Job 6:21. Job répond à ses amis, puis il dit, « Ainsi vous êtes comme si vous n'existez pas. » En d'autres mots, ils ne sont pas là. « Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Hein? Souvent, l'angoisse, ça nous repousse. Hein? On se ferme dans ce temps-là. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose, faites en ma faveur des présents avec vos biens, délivrez-moi de la main de l'ennemi, rachetez-moi de la main des méchants. En d'autres mots, je ne veux pas de solution. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché, que les paroles vraies sont persuasives, mais que prouvent vos remontrances? Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré? Regardez-moi, je vous prie. Puis Job ici ne voulait pas de solution. Il avait besoin d'être compris, que ses amis prennent conscience de son angoisse. Et c'est pour ça que c'est important de prendre ces principes-là puis les appliquer dans la vie de tous les jours. Alors, Nathalie, as-tu un exemple?
Oui, j'ai un autre exemple. Donc, quand le mari arrive à la maison, il a l'air bête. Fait que sa femme, elle lui dit, « Qu'est-ce qui se passe? T'as une face de bœuf. » Lui, il se justifie. Il dit, « Bien, au bureau, ça a mal été aujourd'hui. » Donc, ça déclenche une chicane entre les deux.
T'es pas sérieux.
Alors que tout ce que l'épouse voulait communiquer à son mari, c'est qu'elle avait besoin de lui dire, que lui lui dise plutôt, « J'ai eu une grosse journée, mais je suis content d'être avec toi présentement. » C'est ça qu'elle avait besoin.
Alors, souvent, messieurs, quand les femmes nous parlent comme ça, on a l'impression qu'ils nous accusent. Mais quand ils nous parlent comme ça, c'est pas à nous qu'ils parlent. Elles parlent d'elles. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Elle essaie de nous lancer un message sur elle. Nous, on le prend sur nous. Fait que si on dit, hey, dans le fond, ça me concerne pas, bien, c'est quoi qu'elle essaie de me communiquer? C'est là qu'on va justement décoder cette énigme-là. Et les proverbes nous disent quoi? Pour décoder une énigme, écoute, observe, laisse-la parler jusqu'au bout. Recherche son besoin.
Hein? Ben oui! Il faut quand même appuyer ça. Merci, Éric.
Ben oui. Et donc, éviter de se justifier ou essayer d'avoir raison. Moi, j'aime ça, débattre, discuter. Mais quand c'est d'une discussion entre hommes et femmes, entre mari et épouse, c'est mieux de ne pas entrer là-dedans. Parce que l'important, ce n'est pas de gagner le conflit ou de prouver qu'on a raison. Ce n'est pas ça l'important. C'est de comprendre ce que l'autre nous communique, l'émotion qu'elle est en train de communiquer. Avoir raison, il n'y a pas de gagnant. Ça ne sert à rien de gagner. Il n'y a pas de trophée à la fin. Ah, j'ai gagné l'argument. Ce n'est pas comme ça qu'on bâtit une belle relation. Job 35, 2, ça dit, « Imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant Dieu? » Puis quand on essaye de justifier par nos arguments, justement, on passe à côté de ce que Dieu veut nous montrer. Et savez-vous quoi? Là où on a peur d'être trouvé en faute, là, c'est là que l'Évangile est le moins solide dans nos vies. Et il faut se rappeler l'Évangile, on est justifié. Ce n'est pas grave si on est trouvé en faute. L'important, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que l'autre est blessé? Est-ce que l'autre a une émotion à nous communiquer? As-tu un exemple, chérie?
Oui, un autre exemple, c'est après une soirée entre amis, le couple revient à la maison, la femme a dit à son mari, « Toute la soirée, je n'ai pas pu placer un mot. Tu prenais tout le plancher. Quand j'essayais de parler, tu m'interrompais, tu élevais la voix pour parler par-dessus moi. » Le mari répond, « Bien, c'est nos invités qui m'ont posé plein de questions. J'avais tellement de choses à dire. Je voulais aller au bout de mes idées. » Le problème, c'est qu'en se défendant, il ne tient pas compte de la réalité de l'autre.
C'est ça. Puis, on a peur de la réprimande, alors que la réprimande, c'est le moyen thérapeutique de Dieu pour nous libérer. Proverbe 1, 23 dit, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. » Proverbe 15, 32, « Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert de l'intelligence. » Et c'est au travers des réprimandes ou des reproches, surtout quand ils sont faits dans l'amour, évidemment, ça nous amène à mieux apprendre, à mieux comprendre ce qui se passe, ce qui se vit. Puis, la clé pour garder justement la connexion, c'est de confesser notre manquement par un mot qui décrit notre attitude. Par exemple, dans le cas qui nous concerne, où est-ce que l'homme a pris toute la place et n'a pas laissé sa femme s'exprimer, il pourrait dire, « Écoute, chérie, je pense que j'ai manqué beaucoup de, de sensibilité. J'ai fait preuve d'insensibilité. Donc, des mots comme « j'ai fait preuve de grossièreté, d'excessivité, d'insensibilité, d'égoïsme, j'ai agi d'une manière détestable », ça démontre à l'autre qu'on a compris ce qu'elle ressent. Ça montre aussi qu'on est connecté avec la personne.
Et en terminant, j'ai une suggestion pour maintenir une communication respectueuse et ouverte entre le couple. Ce serait de réserver un soir, semaine, pour justement faire le point ensemble, être à l'écoute l'un de l'autre, partager nos moments de la journée, de la semaine, ce qu'on a vécu, se comprendre, afin d'entretenir une bonne communication. Bref, pour nous, ça fait la différence.
Merci beaucoup. C'est bien? Hein, déjà, hein? Super bien. On s'entend que dans un petit panel comme ça, avec le temps écourté, on ne peut pas couvrir tout en détail, mais ça vous donne quand même un bon aperçu. Il y a certains très bons principes ici. Sylvain et Lim vont toucher quelques questions aussi. Que faire quand mon partenaire pense différent de moi? Qu'est-ce que l'intimité? En quoi c'est bénéfique? Et l'influence de l'intimité sur notre vie, notre relation, nos relations sexuelles. Alors, Sylvain et Lynn.
Merci, Normand. Merci, Éric, aussi, pour ton introduction. Je trouve que c'est à propos. C'est certain qu'on a le privilège de connaître l'Évangile. Puis l'Évangile agit dans nos vies, puis dans toutes les sphères de notre vie. Puis le couple, il n'est pas à part. L'Évangile, Dieu, c'est Dieu qui a institué le mariage. Il savait ce qu'il faisait. Puis j'ai besoin d'apprendre à vivre dans le mariage. Alors, une des choses que nous, on fait avec les couples, que faire quand mon partenaire pense différemment de moi, c'est on commence par leur demander d'exprimer sur papier ce qu'ils ont à cœur les deux. Donc, si Lynn et moi, exemple, on a une discussion au sujet de quelque chose à donner. Ils ont annoncé le matin qu'ils voulaient avoir ramassé des sous pour un certain projet. Puis là, on ne s'entend pas sur le montant. Lynn, elle veut donner plus que moi, puis moi, ça mérite. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais écrire pourquoi ça mérite sur une feuille. Puis Lynn, elle va écrire sur son côté pourquoi elle veut donner, puis pourquoi elle a cette cause-là à cœur plus que les autres causes. Puis ensemble, on va prier là-dessus. On va aller devant le Seigneur, puis on va exposer. Puis on va demander au Seigneur, « Seigneur, dirige-nous. » Puis on a déjà fait cet exercice-là, puis aussi curieux que cela puisse vous paraître, on a écrit le montant dans le coin d'une enveloppe que le Seigneur nous avait mis à cœur de donner. C'est qu'on a écrit le montant, puis on se l'est caché un à l'autre, jusqu'au temps où on avait convenu de se le dévoiler un à l'autre. Et devinez quoi? Le même montant qu'on avait à cœur après avoir prié. Puis nous, dans plusieurs conflits, c'est certain que il y a des choses qui sont anodines. La couleur de la nappe, ça, Lynn, elle peut mettre la couleur qu'elle veut, ça ne fait pas grand-chose. Mais quand ça devient sérieux, puis pointu, puis irritant, ça vaut la peine de venir devant Dieu, puis de prendre un temps d'intimité avec Dieu, puis ensemble, pour régler ce conflit-là. Là-dessus, chérie, je vais te laisser la parole.
Moi, je vais parler de l'intimité, puis qu'est-ce que c'est l'intimité? Mais nous, on a appris de façon dure et longue, c'était quoi l'intimité? C'est d'être connecté cœur à cœur, dans le sens qu'on se parle des vraies affaires l'un à l'autre. Puis c'est pas acquis. On a appris au début de notre mariage, les premières années, tu sais, on faisait comme toutes les couples, là, on sortait à date night, on soupait au restaurant, le film, tout le kit, des soirées, des fins de semaine dans les Laurentides, tout ça. Puis un soir, on arrive chez nous, puis je dis, il dit, c'était une belle soirée, hein? Je dis, oui, c'était bien, mais on n'était pas connectés, tu n'étais pas avec moi. Il me regarde comme si je parlais une autre langue. Il ne comprenait pas du tout, mais moi, je ne comprenais pas mieux comment expliquer ou exprimer ce que je voulais dire, mais... Finalement, en suivant des processus, en lisant des livres sur le mariage, en assistant à des conférences, on a appris comment parler au cœur l'un de l'autre, puis comprendre qu'est-ce que l'autre veut, puis comme Éric a exprimé, là, tu sais, comme il faut vraiment se parler des vraies affaires, apprendre à connaître l'autre. Puis, en fait, c'est pareil comme notre relation avec le Seigneur Jésus. Il faut être intentionnel. Il faut prendre le temps avec le Seigneur Jésus. Il faut prier. Il faut lire sa parole pour comprendre qu'est-ce que lui veut dans notre vie. Puis, c'est la même chose dans le couple. Il faut prendre le temps. Puis, c'est juste en prenant le temps qu'on a pu être de plus en plus connectés. Puis, c'est comme un jardin. Quand il y a beaucoup, beaucoup de mauvaises herbes, c'est dur. C'est une grosse job, enlever toutes les mauvaises herbes. Mais depuis qu'on fait ça, les mauvaises herbes, il y en a de moins en moins. Puis c'est pas une grosse job. On le maintient, puis c'est plus facile, c'est plus plaisant. Quand il y a des obstacles, comme tu sais, des inquiétudes par rapport qui vient essayer d'enlever notre joie, bien, on est capable de se retrouver puis connecter. Fait que c'est la même chose que notre relation avec le Seigneur Jésus. Faut pas laisser les obstacles de la vie venir nuire à cette intimité-là. Alors, puis la qualité de l'intimité avec Jésus va se refléter dans la qualité de l'intimité dans notre mariage. Fait que la première chose, c'est de prendre le temps avec le Seigneur Jésus. Alors, c'est ça. Merci.
Pourquoi l'intimité est-elle bénéfique? Bien, permettez-moi de faire des petits exemples. L'intimité, c'est bénéfique puis nécessaire. Je prends Timothy Keller, qui dit que l'Évangile explique le mariage, puis que le mariage explique l'Évangile. Et de là, je suis capable de tirer la conclusion que quand Dieu dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous », si je prends ce principe-là puis je l'applique à mon épouse, si je m'approche d'elle, elle va s'approcher de moi. Mais j'ai besoin d'être authentique, comme Lynn vient de l'expliquer. J'ai besoin d'être intentionnel dans mon intimité. J'ai besoin de la chercher de la même façon que je vais chercher Dieu. Ça fait que quand je viens en prière et que je cherche Dieu, si je viens avec la même disposition de cœur pour chercher mon épouse, ça va faire avancer l'intimité. Puis, c'est quelque chose que j'ai appris, ça. C'est pas quelque chose que j'avais ou que je savais même il y a 5-6 ans. C'est quelque chose qu'avec le temps, puis avec les conférences, puis avec tous les cours qu'on a pris, on a appris à développer l'intimité, chose qu'on ne savait pas faire avant, chose qu'on ne connaissait pas avant. Puis le fait que je me suis rapproché de mon épouse m'a aidé à me rapprocher de mon Dieu par la suite. Parce que l'intimité que j'ai développée avec elle, je la cherche avec Jésus aussi. Puis c'est comme ça devient tellement... ça devient la corde à trois brins que l'Ancien Testament raconte. Quelle est l'influence de ça sur notre vie sexuelle? Bien, c'est magique, c'est merveilleux. Non, il n'y a pas de magie là-dedans, c'est pas vrai. C'est merveilleux, c'est que d'être proche de mon épouse fait qu'on se comprend mieux, on se complète mieux, fait que chez nous, on n'appelle plus ça une relation sexuelle ou faire l'amour, on appelle ça une célébration d'intimité. Parce qu'on est connectés ensemble, parce qu'on cherche à se connaître mieux, à se chercher l'un l'autre, puis à se comprendre l'un l'autre. Ça, ça a un effet direct et fantastique sur la façon qu'on va communiquer, même dans la chambre à coucher. Ça, sur ça...
Oui, moi, super, c'est excellent. C'est très bien.
Merci.
Marie-Ève et Étienne. Oui, vas-y.
Bonjour tout le monde. Alors, nous, on avait trois questions aussi qu'on avait choisies, qui étaient comment gérer les conflits, nos blessures et comment elles peuvent affecter nos relations et quoi faire. Puis l'importance de prendre soin du cœur de mon partenaire et comment le faire. C'est trois bonnes questions, hein? Alors, oui. Mais nous, on avait envie de répondre à ces questions-là par une histoire. On voulait vous raconter une histoire. Une histoire... s'est déroulé entre moi et Étienne. Donc, c'est une histoire qui est arrivée cet automne, au mois d'octobre. Puis, Étienne, il avait pris une semaine de congé pour ramasser la piscine, ramasser tous les cossins dehors, faire le ménage, sortir, faire le ménage du garage pour que son auto puisse rentrer pendant les vacances. Puis, fait que là, il avait pris une journée pour ça. Puis moi, pendant la semaine, je l'avais prévenu que je devais aller reporter quelque chose à l'hôpital d'Ottawa. Puis, je devais passer chez ma sœur. Puis, j'avais aussi aller passer à l'éco-centre. Donc, j'avais des trucs à faire. Puis là, je voulais profiter de cette journée-là pour y aller. Puis, j'avais prévu là, coucher les enfants, les deux plus jeunes. Les deux plus vieilles étaient à l'école. Puis, je me suis dit, oh, je vais profiter de la sieste. Je vais aller porter mes choses. Puis, je vais revenir après. Puis, Étienne, il pourra travailler dehors. Les enfants vont faire dodo. Fait que là, quand c'est venu le temps de partir, je suis sortie dehors. J'ai été dire ça à Étienne. Puis là, Étienne, il n'était pas content. Parce que là, il se dit, ben là, moi, j'ai juste une journée pour faire mes choses. Puis là, là ça ne marche pas. Fait que là, ça ne faisait pas son affaire. Fait que là, il me dit, en tout cas, moi, je ne rentre pas avant 4 heures. Donc, on était là.
Puis t'es partie.
Oui, c'est ça. Finalement, fait que là, j'ai dit OK, je comprends, mais là, je dis moi, je m'en vais. J'ai rénuméré les choses que j'avais à faire, fait que j'ai quitté.
Fait que, bon.
Toi, ça faisait pas ton affaire.
Non. Donc, c'est ça. Moi, quand Marie-Ève, lorsque Marie-Ève me dit moi, je m'en vais, premièrement, je me rappelais pas, tu sais, que tu m'avais dit ah, tes plans. Puis sur la semaine entière que j'avais pris de congé, il me restait vraiment littéralement une journée pour tout faire. Mais quand elle m'a dit ça, moi, j'arrêtais pas de répéter, mais tu comprends pas. Tu comprends pas. Puis elle est juste partie. Tu comprends pas. Non, elle est partie. Puis honnêtement, c'est vraiment le seul temps que j'avais. Puis j'étais vraiment anxieux de pas pouvoir finir mon travail que j'avais commencé. Tu sais, c'était le bordel dehors. Tout était sorti du garage. On aurait pu faire une vente de garage. Tout traînait dehors, partout. Puis, je me voyais pas dans une heure et demie rentrer dans la maison, m'occuper des enfants, puis tout laisser le travail en plan que j'avais commencé. Puis c'est là, c'est ça. C'est quand j'ai dit, moi, je rentre pas avant 4 heures. J'ai comme essayé d'utiliser la tactique de la culpabilité. Ça n'a pas marché. Mais... ma réaction était quand même intense. Tu sais, on s'entend, ultimement, j'aurais pas laissé ma fille de 2 ans promener dans la maison toute seule pendant 1 heure, là, tu sais. C'était quand même intense comme réaction pour une situation de la vie normale. Tout le monde a vécu ça. Fait que là, je me dis, ouais, puis tu sais, j'aurais pu me dire, ouais, tu sais, au pire, là, finis ça demain, là, chill un peu, Étienne. Mais, du coup, j'étais pas chill pantoute, tu sais. Puis... en rétrospect, j'essaie de comprendre pourquoi, tu sais, pourquoi est-ce que c'était aussi intense pour moi de vouloir finir mon travail, puis pourquoi je voulais contrôler ma femme aussi pour qu'elle puisse me permettre de finir mon travail. Fait que là, tu sais, on dirait qu'il y a comme une discordance entre une situation normale, tu sais, ordinaire, banale, puis une réaction émotionnelle quand même intense. Mais en réfléchissant, je réalise que pour moi, c'est super important dans ma vie, là, de vouloir terminer une tâche commencée. Puis ça revient souvent dans ma vie, avec d'autres exemples. On pourrait s'asseoir ici toute l'après-midi puis parler d'autres exemples de réactions émotionnelles. Mais ce qui revient, c'est aussi que j'essaie d'éviter le manque d'ordre, puis j'essaie d'éviter le chaos. Puis là, la cour, elle avait vraiment l'air d'un chaos. OK? Je crois que pour moi, de compléter une tâche, ça me permet d'avoir le sentiment d'être moi-même complet. Ça me donne l'impression de ne pas avoir de faille, que les gens vont voir que tout est beau. Puis, ça me donne l'impression de ne pas manquer ma shot quand mon plan s'exécute comme j'aurais souhaité. Là, ça n'a pas marché. Hein? Bye, bye, Marie-Ève. Donc, probablement que ça cache aussi quelque chose. OK? Un travail bien accompli, puis voir mon perfectionnisme, ça cache probablement que, tu sais, j'essaie vraiment de rendre ma vie conforme à comment je veux que ma vie soit. Je me suis fait un idéal dans ma tête, une image, Étienne va avoir l'air de ça, ma maison va avoir l'air de ça, puis en conformant ma vie à l'image que j'ai en tête, Mais ça me donne un soulagement que je suis normal, selon l'image que j'ai dans ma tête. Je suis normal. J'ai une vie en harmonie. Ça, je cherche beaucoup l'harmonie. Hein. Puis, parce que probablement qu'à travers mon enfance, puis ce que j'ai vécu avec l'obésité, l'intimidation, le rejet, moi, ce que j'ai enregistré dans ma tête, j'ai enregistré, hey, t'as quelque chose qui cloche, qui n'est pas normal. Puis ton anomalie te fait souffrir. Les gens vont me mettre de côté à cause de, je ne fit pas dans le moule. Puis je travaille très, très fort pour être normal. Même encore aujourd'hui. Dans des situations banales comme ça, je réalise que, wow, je travaille vraiment fort pour finir une tâche, pour pas qu'il y ait de rien apparent, que les choses soient en ordre, que j'aie l'air normal selon le plan que j'avais en tête. Ça fait mal. C'est que j'ai pas le goût de goûter à ça, mais sur le coup, je suis comme, ouais, je rentre pas avant 4 heures, tu sais. J'ai pas crié de même, là. J'ai juste dit, moi, je rentre pas avant 4 heures. Mais il y avait quand même une intensité. Puis, j'avais aussi soif, tu sais, ce que j'ai vécu, puis tu sais, mon... Je veux être normal, mais aussi, j'avais quand même le goût, tu sais, j'arrête pas de dire, tu comprends pas. J'avais le goût qu'elle me comprenne. Qu'elle comprenne mon plan, puis j'avais l'impression que... Puis j'avais dit aussi, tu sais, moi, je fais ça pour vous. Tu sais, j'avais le goût d'une reconnaissance de sa part. Mais c'est beau, ça. Tu sais, puis je pense que Dieu me crée avec aussi ce besoin d'être valorisé là, tu sais, il me crée comme une créature merveilleuse. On le chante dans des chants, mais là, j'essayais de le vivre, là, tu sais. Puis, mais tu sais, c'est beau, puis Dieu nous a créé son image. Le problème, c'est pas que j'avais soif qu'elle me dise « Wow! » Tout le monde a le goût de ça, puis c'est beau. Puis le problème, c'est pas la souffrance que j'ai vécue, tu sais. Mais le problème, c'est que j'essayais de moi-même me faire un scénario pour me combler, tu sais, puis dire « Je souffrirai pas. Ma vie va être normale. » Ma femme va répondre à ça. Elle va me permettre de finir mon travail. Fait que c'est l'exigence. C'est là le réel problème, je pense. Puis souvent, c'est là que ça tourne mal quand j'essaie moi-même d'assouvir mes propres soifs, là. J'ai soif de valeur, enfin, je cours après tout. Puis là, je cours après ma femme pour qu'elle puisse combler tout ça. J'ai essayé de la rendre responsable de mon scénario. Puis on comprend que mon scénario, il y avait comme plusieurs objectifs en dessous. Sans que je l'aie processé, sur le coup, là, c'était plus, moi, je rentre pas. Mais sur le coup, j'ai quand même, elle est partie, puis j'étais comme, ah, comment elle s'est sentie? C'était quand même intense. Fait que, cette journée-là, quand elle est revenue, j'ai demandé pardon pour ma réaction, puis d'avoir exigé qu'elle reste. C'est comme si je voulais l'emprisonner, tu sais. J'ai demandé pardon pour ça, puis j'ai voulu quand même entendre comment elle s'est sentie face à ma réaction.
Oui, bien c'est ça. Moi, c'est sûr que dans mon cœur, j'ai trouvé ça difficile de faire face à l'insatisfaction de mon mari, parce que moi, ce que j'ai compris plus de moi, c'est que je devais satisfaire les gens autour de moi par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance. C'était plus de voir les gens comme des maîtres à satisfaire, puis que j'existe pour leur amener de la satisfaction. Puis moi, c'est comme si dans ma tête, satisfaction égale amour. Fait que là, quand que je veux aimer mon mari, ben je veux comme qu'il soit content, qu'il soit de bonne humeur, qu'il soit satisfait. Mais je pense que là, dans cette situation-là, là, je voyais son insatisfaction, mais je voyais que c'était pas de l'aimer que de faire ça à ce moment-là, mais c'était difficile pour moi parce que c'est ce que j'ai compris de moi. C'est comme de la façon que je me vois. Puis, c'est ça, je me sens comme souvent obligée, puis que j'ai pas le choix. Je me sens responsable. C'était comme ça que je me sentais aussi. Je me sentais responsable qu'il puisse avoir toute sa journée. Puis, c'est sûr que j'avais envie aussi que mon mari, il puisse voir qu'est-ce que moi, je subis ou qu'est-ce que moi, je vis à toutes les semaines, c'est de faire mes activités avec des enfants, avec des demandes, comme c'est difficile des fois de juste préparer un souper sans avoir aucune interruption. Tu sais, je suis comme habituée de penser à tout, puis d'être interrompue. Fait que moi, dans ma tête, j'avais envie qu'ils puissent reconnaître ça aussi, que c'est ce que je vis jour après jour. Puis en même temps, comme je trouvais que c'était pas tout à fait vrai. Moi, j'aime ça, les choses vraies. Puis là, il me disait, j'ai juste une journée. Fait que là, j'étais comme, ah non, il y a d'autres jours. Tu sais, il pourrait le faire une autre journée. Fait que je trouvais que ça manquait, comme que c'était pas tout à fait vrai. Puis, j'avais aussi envie d'y aller la tête tranquille. J'avais vraiment soif, comme, de liberté, tu sais, d'aller en auto, faire mes petites affaires, pas avoir des enfants dans la voiture, puis comme penser aux siestes, penser à la routine. Fait que ça, c'est ce qui habitait mon cœur. Fait que dans comment j'ai réagi à ce moment-là, ben ça a été un défi pour moi d'aimer vraiment mon mari, puis de pas interpréter l'amour comme la satisfaction. Fait que j'ai vraiment, parce que des fois j'ai tendance à vouloir éviter le conflit. Donc là, d'arranger les circonstances pour que Étienne puisse être content, éviter un peu la chicane. Ou, mon autre façon de faire, c'est que je deviens la norme. Fait que là, j'exige la reconnaissance. Fait que là, je lui dis, ben là, moi, je le fais, tu es capable de le faire. Tu sais, moi, je suis habituée de faire ça à toutes les semaines. Ben, tu es capable une journée de faire ça. Mais là, cette journée-là, par la grâce de Dieu, c'est pas ce que j'ai fait.
C'est pas drôle.
Mais cette fois-là, c'est pas ce que j'ai fait. Puis, même si c'est ce que je fais habituellement, mais j'ai vraiment choisi, c'est ça, de l'aimer. Puis, c'est pour ça que j'ai décidé de partir, même si c'était difficile pour moi. Puis, j'ai décidé aussi de prier. J'ai prié pour Étienne, puis dans ma prière, c'était « Seigneur, s'il vous plaît, comme, mets ta paix dans son cœur, sois sa source de paix dans sa journée, fais qu'il puisse avoir le temps de faire ses choses, pourvois pour une autre journée, comme, fais éclaircir ses idées. » Puis, j'ai voulu aussi supporter son insatisfaction, puis croire « Qu'est-ce que Dieu dit de moi? » Dieu dit de moi que je suis libre, que je peux partir. Même si lui n'était pas content, comme je savais que mes enfants étaient en sécurité, ils dormaient, comme j'étais libre de partir, de quitter. Puis ce n'est pas à l'autre de dire qu'est-ce que je suis, de déterminer que je dois rester ou que je suis obligée. Donc j'ai cru ça. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Puis je pense que dans ma façon aussi de choisir d'aimer mon mari, c'est que si moi je choisis de toujours travailler sur les circonstances pour le rendre content, bien, lui, je ne l'amène pas à se tourner vers Dieu non plus, parce que je deviens responsable de son bonheur. Fait que j'empêche mon mari de se tourner vers Dieu, vers celui qui est vraiment responsable de son bonheur. C'est pas moi. Comme on a des âmes, l'être humain, on a des âmes assoiffées et exigeantes. Fait que si moi, je me mets à vouloir combler mon mari, satisfaire son âme, c'est un puits sans fond, je vais m'épuiser. Puis lui, en même temps, je l'empêche de se tourner vers Dieu, vers la source de vie.
Je pense vraiment que c'est la plus belle marque d'amour, de permettre à l'autre de se regarder. Puis comme ça a été dit, tu sais, de regarder, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Qu'est-ce qui te motive en dessous? Qu'est-ce qui te drive? Tu sais? Puis que Marie-Ève m'ait mis une certaine limite-là, ça m'a permis de réfléchir. Tu sais. Waouh! C'est vrai que c'était quand même intense comme réaction par rapport à... Tu sais, tu finiras ça demain, Étienne. Donc, mais ça m'a permis de faire le processus. Puis je pense que Marie le dit, puis je le répète, je crois vraiment qu'aimer, c'est pas de rendre les gens contents, heureux, mais c'est de leur permettre de regarder leur cœur, puis de comprendre qu'ils ont vraiment besoin de Dieu. J'avais pas besoin d'une femme qui restait à la maison cet après-midi-là. J'avais besoin d'un Dieu qui me disait, Étienne, moi, je te vois. Étienne, je sais ce que tu vaux. Je t'ai donné ce qu'il faut. Malheureusement, on ne vit pas dans le jardin, tu sais, dans le jardin d'Éden. Tout n'est pas toujours rose, mais on sait qu'un jour, on va être restauré. On peut goûter à cette espérance-là. Pour goûter à l'eau de la vie, il faut avoir soif. Si Marie-Ève m'aurait donné cette l'eau que je croyais, que je pensais qu'elle allait me satisfaire, je serais resté avec une soif, parce que je n'aurais pas goûté à la vraie source. Dieu me dit qu'il m'aime tel que je suis. Je vous parlais de mon enfance, mais Dieu n'a pas fait d'erreur avec les blessures du passé. À travers ces blessures-là, je peux goûter à comment il m'aime. Comment il m'aime, comment il n'a pas fait d'erreur, comment il m'a conçu normal dans son plan merveilleux. La plus en fait, comme on disait, tu sais, permettre à l'autre de nous tourner, de permettre à l'autre de se tourner vers Dieu sans le rendre satisfait ou content dans l'immédiat, c'est une belle marque d'amour. Parce que, ultimement, c'est Dieu qui peut combler nos cœurs. Tu sais, Marie-Ève l'a dit, on est insatiable. Ça peut mener loin tout ça, là. OK? C'est lui seul qui peut combler nos cœurs insatiables, combler nos soifs les plus profondes, qui sont souvent non avouées, sont cachées, sont en dessous des réactions comme j'ai eues. Tu sais, moi, je ne rentre pas avant 4 heures. Il y avait beaucoup de choses en dessous de ça. Puis Dieu seul aussi peut soulager nos souffrances puis consoler nos cœurs. Quand Jésus touchait un lépreux, c'était fini. Il pouvait goûter à une intimité avec Jésus. Tu sais, c'est ça que Dieu nous appelle à vivre avec lui. Mais si on ne voit pas comment on a besoin de lui, ça va être difficile de goûter à cette beauté, tu sais, à l'Évangile dans son ensemble. Puis le plus important, c'est que Dieu seul peut nous pardonner de notre manque d'amour. Je pense que ce matin-là, j'ai vraiment manqué d'amour envers Marie-Ève parce que je voulais l'emprisonner. Je voulais l'exiger de répondre à mon besoin. Puis, c'est ça. John Eldridge, un auteur que j'aime beaucoup, il disait que de se soucier de nos propres cœurs puis de vouloir comprendre ce qui s'y trouve, c'est pas nécessairement de l'égoïsme, mais c'est le commencement de l'amour. Parce que quand je me comprends, là après, je peux être libre puis dire hey, qu'est-ce que tu voulais, toi? Comme, qu'est-ce que ça te fait que je réagisse comme ça puis que je veux que tu restes à la maison à tout prix? T'sais? Puis de la comprendre.
Oui. Avez-vous remarqué comment tous les commentaires sont tellement centrés sur les Écritures, centrés sur l'Évangile? Comment Jésus ressort glorieux derrière tout ça. Vos témoignages sont vraiment empreints d'humilité, très profond. On voit là, qu'il y a comme tout un cheminement avec le Seigneur. Et c'est vraiment beau. On le souhaite pour tous les couples. Courbons-nous juste un instant, si vous voulez bien. On va prier. Eh bien, Seigneur, tout d'abord, on veut te remercier, toi, qui es l'exemple suprême de celui qui nous a aimés, qui nous connaît. On veut te louer, Seigneur, pour toute ta bonté, ta miséricorde. Combien de fois, Seigneur, nous t'avons déçu, mais Seigneur, tu es revenu avec grâce et tu pardonnes. Tu nous fais même du bien pour nous montrer à quel point tu es bon. Seigneur, on te remercie pour ces beaux témoignages qu'on a entendus ce matin. On te remercie pour ces chers couples et continue à accomplir ton œuvre dans leur vie. Merci pour leur dévouement, leur service. On te prie de mettre ta main sur ces couples, Seigneur, qui souffrent, qui ont beaucoup de douleurs en ce moment. Alors, mets ta bonne main sur eux et on te prie que notre Église puisse être une bénédiction pour ces couples qui, en ce moment, passent ces moments difficiles. On veut accompagner, Seigneur, ces couples. On veut les entourer et les aimer, prier pour eux. Alors, fais-leur du bien. Montre-nous comment être de meilleures épouses, de meilleurs époux, de tout pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.